Voix Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Morgane Guériec au micro. Bienvenue à l'écoute de cette édition du vendredi 5 février 2016. À la une ce matin, l'ONU accuse le Rwanda d'entraîner des réfugiés burundais afin de renverser le président burundais Pierre Nkurunziza. Centrafrique, de nouveaux cas d'abus sexuels impliquant des soldats de la MINUSCA. Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara promet de ne plus envoyer d'Ivoiriens à la CPI. Présidentielle américaine, débat houleux hier dans le New Hampshire entre les deux candidats démocrates. Comme tous les matins, la Minute Éco et les sports, mais d'abord le journal. Des experts de l'ONU accusent le Rwanda de recruter et d'entraîner des réfugiés du Burundi voisin afin de renverser le président burundais Pierre Nkurunziza. On fait le point avec John Lyndon.
Selon un rapport confidentiel obtenu jeudi par l'AFP et l'agence Reuters, ces experts ont interrogé 18 réfugiés burundais, dont 6 mineurs, qui ont fourni des informations sur leur entraînement dans un camp au Rwanda l'été dernier. Ils ont déclaré que leur but ultime était de chasser du pouvoir le président burundais Nkurunziza, indique le rapport qui a été transmis au Conseil de sécurité. Les réfugiés qui se sont rendus en RDC Congo ont indiqué aux experts qu'ils avaient été recrutés dans le camp de réfugiés de Mahama dans l'est du Rwanda en mai et juin 2015. L'entraînement comprenait des tactiques militaires, l'utilisation et l'entretien de fusils d'assaut et de mitraillettes, ainsi que des sessions d'endoctrinement idéologique, indique le rapport. Le Burundi, en pleine crise depuis avril 2015, a accusé à plusieurs reprises son voisin rwandais de soutenir des rebelles qui tentent de renverser son gouvernement. Le Rwanda a rejeté toutes ces accusations.
Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara n'enverra plus d'Ivoiriens à la Cour pénale internationale. Promesse faite par le chef d'État à l'issue d'une rencontre à Paris avec le président François Hollande. Alassane Ouattara estime en effet que son pays a désormais une justice opérationnelle. Ces déclarations interviennent alors que l'ex-président Laurent Gbagbo et le chef de milice Charles Blé Goudé comparaissent devant la Cour pénale internationale pour leur rôle présumé dans la crise post-électorale de 2010-2011. Et concernant les relations avec le Burkina Faso, le président ivoirien Alassane Ouattara a assuré qu'elles étaient totalement apaisées. Alassane Ouattara a confirmé avoir rencontré son homologue burkinabé Roch Marc-Christian Kabore en marge d'un sommet de l'Union africaine. Le président Kabore, qui devrait d'ailleurs se rendre dans quelques semaines en Côte d'Ivoire, a ajouté Alassane Ouattara. Il faut dire que les relations entre les deux pays se sont détériorées après le coup d'État contre Blaise Compaoré. En dépit des poursuites dans son pays, l'ex-président burkinabé a obtenu asile en Côte d'Ivoire. Et puis, la justice militaire burkinabé a lancé mi-janvier un mandat d'arrêt contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, qu'elle soupçonne d'avoir soutenu un coup d'État raté en septembre au Burkina Faso. Quelques 200 millions de femmes et de filles dans le monde souffrent de mutilations génitales. Selon un nouveau rapport de l'UNICEF pour l'enfance, la Somalie, la Guinée et Djibouti sont les pays avec le taux de mutilation le plus élevé. En Guinée, par exemple, 97% des filles sont concernées. En revanche, les taux baissent au Burkina Faso. À noter aussi que le Nigeria a adopté des lois criminalisant cette pratique. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a inauguré hier, en plein désert du Sahara, l'une des plus grandes centrales solaires du monde, Salwa Jafari.
La centrale Nour 1, ou Lumière, est la première étape d'un vaste projet visant à doper la production d'énergie renouvelable au Maroc et en Afrique. Accompagné par le chef du gouvernement, le roi Mohamed VI, a symboliquement démarré la centrale près de Ouarzazate, au sud-est du Maroc. Alimentée par de grands miroirs incurvés alignés dans le désert du Sahara, cette centrale est la première d'un parc solaire géant. Elle permettra de produire plus de 500 MW d'énergie photovoltaïque en 2018 et fournira de l'électricité à 1 million de foyers. Lancée en 2013, sa construction a coûté plus de 600 millions d'euros, financée par entre autres la Banque africaine de développement, l'Agence marocaine pour l'énergie solaire, l'Union européenne et des opérateurs privés.
les mausolées de Tombouctou reconstruits à l'identique. Souvenez-vous, ces sanctuaires du nord du Mali avaient été détruits par les djihadistes Touareg d'Ansardin il y a plus de 3 ans. Mais hier, une cérémonie de sacralisation a marqué la fin de leur réhabilitation. Les habitants pourront désormais en bénéficier pleinement, assurent les autorités.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Présidentielle américaine, les deux candidats démocrates se sont affrontés lors d'un débat houleux dans le New Hampshire, à quelques jours de l'élection primaire de cet État. L'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton a accusé le sénateur du Vermont Bernie Sanders de mener une campagne de dénigrement à son encontre. « Je n'ai jamais changé de vote à cause d'un don que j'ai reçu », a répondu l'ex-première dame des États-Unis à son adversaire, qui ne cesse de dénoncer l'influence des pouvoirs financiers sur la politique. Parlons de la raison pour laquelle Wall Street a été déréglementée dans les années 90. Est-ce dû au fait que Wall Street a dépensé des milliards de dollars en lobbying et en contributions de campagne, a-t-il lancé. Le sénateur du Vermont est donné en tête dans les sondages portant sur le New Hampshire. Hier, on lui donnait 58% des intentions de vote contre 38% pour Hillary Clinton. Et lundi, dans l'Iowa, Mme Clinton a remporté de peu la première primaire du processus électoral face à Bernie Sanders, 49,8% à 49,6%. Conflit en Syrie, les 130 frappes russes d'hier ont fait au moins 21 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme dans des quartiers rebelles d'Alep. C'est dans ce contexte que le Conseil de sécurité de l'ONU tient aujourd'hui des consultations sur la Syrie. Plus de 10 milliards de dollars ont été promis hier lors de la conférence de donateurs à Londres pour aider des millions de Syriens victimes de la guerre et afin de tenter d'endiguer la crise des réfugiés qui menace de déstabiliser les pays d'accueil. Nathalie Barge.
Les pays donateurs ont atteint leur objectif, faire mieux que lors de la conférence de 2015, où seulement 3,3 milliards de dollars avaient été récoltés sur les 8,4 milliards réclamés. Sur les 10 milliards promis, une moitié doit être versée en 2016 et l'autre d'ici 2020. La conférence a vu la plus grosse somme jamais réunie en un jour en réponse à une crise humanitaire. S'est félicité le Premier ministre britannique David Cameron. Ce qui a été accompli ce jour n'est pas une solution à la crise. Nous avons toujours besoin de voir une transition politique, a dit M. Cameron, alors que les pourparlers de paix lancés à Genève ont été suspendus mercredi. Notre message adressé au peuple syrien et à la région est clair. Nous nous tiendrons à vos côtés et nous vous soutiendrons aussi longtemps qu'il le faudra, a-t-il ajouté. Le gouvernement britannique, l'un des plus gros donateurs avec les États-Unis et l'Allemagne, a promis 1,74 milliard de dollars d'ici 2020. La chancelière allemande Angela Merkel a promis quant à elle de débloquer 2,3 milliards d'euros d'ici 2018.
Le nombre de djihadistes sera en baisse en Syrie et en Irak, probablement en raison des frappes aériennes internationales. Il serait entre 19 000 à 25 000 contre 20 000 à 30 000, voire 33 000 auparavant, estiment les officiels américains. En revanche, le nombre de djihadistes a presque doublé en Libye. Washington estime qu'il serait environ 5 000 contre les 2 à 3 000 précédemment comptés. En Allemagne, la police a arrêté 3 Algériens. Ils sont soupçonnés de préparer un attentat à Berlin. Et puis, le virus Zika fait encore parler de lui. Après l'infection d'une femme enceinte habitant en Espagne et revenant de Colombie, l'OMS juge approprié de reporter les dons du sang des voyageurs revenant de pays à risque.
La Minute Éco, c'est tout de suite avec Arzuma Compaoré.
Levée de fonds de la société d'investissement XSML en Afrique centrale et en RDC. Le gestionnaire hollandais de capital investissement en Afrique centrale a levé 45 millions de dollars, soit deux fois plus que les 19 millions de dollars qu'elle avait collectés 5 ans plus tôt pour le Central Africa SME Fund. Le premier fonds s'était effectué via 32 investissements de 100 000 à 500 000 dollars. Le second fonds, beaucoup plus important, connaît des investissements pouvant atteindre atteindre 5 millions de dollars. L'association Agir pour une jeunesse autonome, à travers son cofondateur, veut transmettre l'esprit d'initiative à la jeunesse gabonaise. L'ingénieur en télécommunication Willy Aseko, qui a créé en 2010 la société Les Transports Citadins, avait pris le pari d'offrir des services logistiques et de location de véhicules destinés aux entreprises, aux hommes d'affaires et aux touristes. Il a contribué à la mise en place du premier incubateur gabonais JA Gabon. Son objectif est de transmettre aux jeunes les valeurs du patriotisme économique afin qu'ils soient plus actifs dans leur propre développement. L'Open Lab de Rabat sera un nouveau pôle de recherche et de développement du constructeur automobile français PSA Peugeot Citroën. Ce partenariat avec l'Université internationale de Rabat devrait commencer à produire à Kenitra en 2019. Pour Sylvain Alano, directeur scientifique et technologie future du groupe, le marché africain est très prometteur et constitue le troisième pilier de développement du groupe PSA Peugeot Citroën.
Merci Arzuma. Place au sport avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Morgan.
CHAN 2016, la finale opposera la RDC au Mali.
Oui, les aigles du Mali sont venus à bout des éléphants de Côte d'Ivoire. 1-0, un but marqué dans les dernières minutes du temps réglementaire par Yves Bissouma. Écoutez ses réactions recueillies hier juste après le match dans la rue de Bamako.
Je m'appelle Seu Ndiaye, je suis fervent supporter des aigles du Mali. Et vraiment, on se réunit, nous sommes contents. Et nous sommes satisfaits. Et nous venons de battre la Côte d'Ivoire. Presque 50 ans après l'indépendance.
Dans un match. Pour la première fois, moi quand même, j'ai vu une équipe de Mali qui bat la Coupe de Côte d'Ivoire dans une compétition comme ça. D'abord, chacun
des Maliens aujourd'hui, tout le monde est content.
Pourquoi ? Parce qu'on a gagné. On a gagné contre qui ? Contre Côte d'Ivoire.
Fierté aussi pour l'encadrement technique que nous allons vraiment remercier, féliciter, ainsi que l'ensemble des joueurs. Tout le peuple malien est fier aujourd'hui. Et notre objectif principal, c'était vraiment d'arriver à battre la Côte d'Ivoire une fois quand même. On n'avait jamais pu parvenir à faire ça. Et maintenant qu'on est en finale, et nous prions le bon Dieu aussi pour que vraiment, après la performance des cadets et des juniors dans les compétitions internationales, que cette équipe aussi puisse vraiment rehausser encore une fois de plus le niveau du football malien.
Voilà des propos recueillis à Bamako par Kassim Traoré. Pour le champion d'Afrique 92, l'Ivoirien Lucien Kassi Kouadio, les aigles du Mali sont bien partis pour battre les léopards en finale.
Je crois que le Mali a eu une bonne équipe, une bonne pépinière. Et j'ai comme l'impression, si je ne me trompe pas, ce sont les mêmes joueurs qui ont joué la Coupe du Monde et ce sont les mêmes joueurs aussi qui ont joué la CAN. Donc, avec la bonne formation de Jamadou, je pense que le Mali a toutes les chances de remporter ce championnat d'Afrique. La RDC, c'est une équipe vieillissante, mais c'est une équipe qui a eu beaucoup d'expérience. Mais avec la fraîcheur des Maliens, je pense que ça serait un très bon match, mais j'ai un petit penchant pour les Maliens.
Classement FIFA du mois de février.
Oui, la Côte d'Ivoire conserve la première classe, mais perd sa position dans le top 20 mondial au profit de la Turquie. L'Algérie est devancée par le Cap-Vert sur le podium continental. Le Ghana, la Tunisie, le Cameroun, le Mali, le Maroc et l'Angola sont en net recul, au contraire de l'Égypte, de la RDC et de l'Afrique du Sud. Notons que le Rwanda, classé 85e, a effectué une progression remarquable en gagnant 6 places.
Et en basketball américain, la NBA, des basketteurs étaient hier à la Maison-Blanche.
Oui, le président américain Barack Obama a, comme le veut la tradition, reçu ce jeudi le champion NBA en titre Golden State, dont il a loué le merveilleux basket et l'esprit d'équipe. Ils sont si bons qu'ils semblent porter le basket à un autre niveau, a déclaré le président américain, grand amateur du basket, devant les joueurs et leurs entraîneurs en costume qui lui ont remis un maillot de leur équipe à son nom. Grand supporter des Chicago Bulls, Barack Obama a taquiné Stephen Curry et ses coéquipiers présentés comme l'une des meilleures équipes de l'histoire après leur titre 2015 et leur début de saison 2015-2016 exceptionnels avec 45 victoires en 49 matchs. Et puis Morgan, on reste toujours en basketball et toujours en NBA. Cette fois-ci, les résultats.
New York Knicks, Détroit, 105-111. Houston, Phoenix, 111-105.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Morgane Guériac au micro, Le Monde aujourd'hui, deuxième partie de notre émission. Première escale en Centrafrique, de nouveaux cas d'abus sexuels impliquant des soldats de la MINUSCA ont été signalés par Human Rights Watch. Il s'agit de 8 femmes, parmi lesquelles des mineurs de 13 à 14 ans, qui auraient été victimes de viols et d'abus sexuels dans la région de Bambari, située au centre du pays. Les explications du directeur de Human Rights Watch à New York, Philippe Bolopion, au micro de Félix Yepassi Zembro.
Nos chercheurs qui étaient dans la région de Bambari en République centrafricaine ont parlé à plusieurs victimes de viols et d'abus sexuels. On a documenté au total 8 cas de femmes mais aussi de filles, certaines âgées d'à peine 13 ou 14 ans, qui ont été violées parfois par plusieurs soldats de l'ONU, plusieurs casques bleus. Dans d'autres cas, il s'agissait de femmes qui consentaient à avoir des relations sexuelles avec des soldats en échange de sommes de monnaie dérisoires ou de nourriture. Et donc, nous avons immédiatement porté à l'attention de l'ONU ces faits qui sont extrêmement graves. Et nous avons pu constater que l'ONU prenait ces faits très au sérieux et avait immédiatement lancé des investigations pour faire la lumière sur ce qui s'est passé. Et nous espérons que ces investigations mèneront à ce que les auteurs de ces crimes graves soient traduits en justice et pas seulement renvoyés chez eux. Et
les auteurs dont vous parlez, les auteurs de ces actes-là, sont-ils formellement identifiés ?
Écoutez, ils ne sont pas identifiés par nom, donc cela va demander des enquêtes plus approfondies, mais on sait qu'au moment de ces viols, ce sont des soldats de République démocratique du Congo et du Congo-Brazzaville qui étaient déployés dans cette région, et donc c'est maintenant à l'ONU, mais aussi à la justice de ces deux pays, de remonter la trace et de trouver les auteurs de ces viols.
Oui, ben justement, en ce qui concerne les autorités judiciaires de la RCIA, ont-elles été informées de cette situation ?
À notre connaissance, l'ONU a immédiatement informé les autorités centrafricaines de ces faits et donc elles vont, j'imagine, elles-mêmes suivre avec beaucoup d'intérêt les efforts qui sont faits à la fois par l'ONU mais aussi par les pays contributeurs de troupes pour identifier les auteurs de ces viols.
Oui, Philippe, dit-on aussi que des policiers sénégalais sont impliqués dans ces nouveaux cas d'abus sexuels, est-ce exact ?
Human Rights Watch n'a pas documenté de cas impliquant des policiers sénégalais. Cela ne veut pas dire évidemment qu'il est impossible que ce soit produit. Simplement, ça ne fait pas partie des choses que nous avons documentées nous-mêmes.
Voilà, c'était Philippe Bolopion, directeur de Human Rights Watch à New York.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Mais nous partons maintenant en République démocratique du Congo, reprise annoncée de la coopération entre l'armée nationale et les forces de l'ONU. Une bonne nouvelle pour beaucoup, puisque les opérations visent à traquer des forces négatives dans l'est de la RDC. Seulement, les violons ont encore du mal à s'accorder entre le gouvernement de Kinshasa et la MONUSCO, la mission onusienne sur place. Reportage de Dominique Diananga de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Côté Kinshasa, on précise que cette reprise est le fruit de plusieurs demandes pressantes du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Lambert Mende est porte-parole du gouvernement congolais.
Ce rétablissement de la coopération constitue pour nous un atout indéniable dans la lutte pour l'éradication des résidus des forces négatives, notamment des ADF et des FDLR. À la demande pressante et insistante du Conseil de sécurité de M. le secrétaire général des Nations Unies.
Lambert Mende, qui a mal digéré certains propos du sous-secrétaire général de l'ONU en charge des opérations de maintien de la paix, Hervé Latous, précise ici les contours de cette reprise de coopération.
Le concept de la collaboration consiste désormais en un appui de la MONUSCO aux opérations menées par les forces armées de la République démocratique du Congo en cas de besoin. Il ne s'agit donc pas d'opérations conjointes des deux forces. La communication autour des dites opérations devra être soignée et se fera soit par les seules forces armées de la République démocratique du Congo, soit éventuellement par celles-ci conjointement avec les autorités compétentes de la MONUSCO.
À la MONUSCO, on précise que les divergences ont été aplanies et que l'heure n'est plus à la polémique. Félix Prosper Bass est porte-parole militaire de la MONUSCO.
Il est inutile de revenir sur les conditions des divergences qui nous avaient opposées avec les autorités congolaises. Dans toute forme de relation relations, qu'elles soient conjugales, amicales, familiales ou fraternelles, qui avaient des hauts et des bas. Et nous avons connu cette période de hauts et de bas qui est dépassée. Ces divergences ont été aplanies. Nous n'avons pas cessé de faire le plaidoyer pour la reprise effective de ces opérations.
La population salue la reprise de la coopération entre la MONUSCO et les FRDC. Cet habitant demande plutôt aux deux parties de collaborer en toute franchise pour mettre fin, une fois pour toutes, au phénomène groupes armés dans l'est de la RDC.
Il faut que les deux parties s'entendent, mettent des divergences sur la table, qu'ils essayent un peu de voir ce qui ne va pas, les régler le plus tôt, afin de permettre à un aboutissement total des tracts des FDLR, des ADF Nalu qui sont en train de massacrer et tuer la population de l'est du pays.
Rappelons que la MONUSCO avait suspendu son appui au FRDC dans les opérations des tracts des FDLR après les refus de Kinshasa de sanctionner deux généraux accusés de violation des droits de l'homme. Kinshasa, Dominique Dinanga de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Cameroun, des associations de défense des droits de l'homme appellent le gouvernement à améliorer les conditions de vie dans les prisons. Notre correspondant Moki Edwin Kindeka a visité une prison à Yoko, dans le centre du pays. Son reportage rendu ici par Lionel Gaïma.
Penda Emmanuel, 26 ans, a déjà passé 4 années de sa vie à la prison de Yoko, dans le centre du Cameroun. Il avait été condamné à 7 ans de prison pour vol et tentative de meurtre. Après 2 ans de détention à Yaoundé, il a été transféré à Yoko.
Non,
ce n'est pas bon à Yoko. D'abord, il n'y a pas à manger. Les gens survivent grâce à la chasse et toutes sortes de choses. Cela veut dire que si vous êtes à la prison de Yoko, vous allez beaucoup souffrir. Pem Clément, lui, est condamné à perpétuité après avoir été reconnu coupable de meurtre. Selon lui, le manque de nourriture et d'eau potable, ainsi que la torture et les traitements inhumains ont provoqué des émeutes à son arrivée à Yoko il y a une dizaine d'années.
Les prisonniers s'étaient évadés de cette prison et on avait envoyé les corps armés de Yaoundé. Et ces prisonniers faisaient vraiment du massacre dans la ville, au point où on avait sonné la cloche de la gendarmerie et on a demandé à 18h, personne ne doit plus jamais sortir. Les hélicoptères faufilaient dans tous les champs et les prisonniers là ont violé les grands-mères. Ils ont tout fait, mais on les tuait aussi. On ne sait pas maintenant si certains se sont échappés ou bien on avait tout pris.
Les 78 centres de détention du pays étaient faits pour accueillir 16 000 prisonniers. Maintenant, ils sont plus de 30 000, dont la plupart en attente de jugement. Des prisons comme celle de Kondengi à Yaoundé devaient recevoir 500 prisonniers, mais sont maintenant bondées, leur population carcérale ayant été multipliée par 4. Chez Mouta Divine préside la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés du Cameroun. Son groupe appelle au respect des droits des prisonniers en leur garantissant des procès équitables ainsi que la satisfaction de leurs besoins élémentaires. Vous ne pouvez continuer de nier ce que tout le monde sait et dont les preuves sont là. Acceptez plutôt qu'il y a des violations, trouvez les causes profondes et les solutions pour que ne se reproduisent plus. Mapui David, régisseur de la prison de Yoko, assure pour sa part que des efforts sont faits. Selon lui, en 2 ans, le nombre de prisonniers y est passé de 3 000 à une centaine aujourd'hui.
La prison de Yoko se porte bien pour le moment. Et puis l'État fait des efforts pour cette prison. Il n'y a que l'adduction d'eau, le forage, qui n'est pas réalisé. Les détenus souffrent beaucoup pour ce problème d'eau. Vous savez que la prison de Yoko reçoit par transfèrement. Donc il n'y a pas une juridiction à Yoko pour placer les personnes en détention. Donc, je ne prends que les détenus soient de Yaoundé, d'Ntui, de ça. Je dois prendre les détenus de Yaoundé pour décongestionner la prison centrale. Pour le moment, non. Mais je pense que les projets de l'État voudraient que ceux qui sont à Yaoundé, déjà condamnés, peuvent venir à Yoko. Mais pour le moment, ils ne sont pas encore là.
Mais puis David rejette les allégations de prisons surchargées. Amnesty International avait rapporté en septembre que les prisons camerounaises sont surpeuplées avec de nombreuses arrestations de membres présumés de Boko Haram, particulièrement à Maroua, près de la frontière avec le Nigeria. Yaoundé avait rejeté ces accusations.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham.
Au Tchad, la police a dispersé hier à N'Djamena une manifestation de diplômés sans emploi qui protestaient contre le gel de l'intégration à la fonction publique. On fait le point avec André Komadjingar.
C'est le ras-le-bol ce jeudi matin des lauréats des écoles nationales, des instituteurs bilingues, des agents sanitaires et sociaux, des instituts supérieurs des sciences de l'éducation, des écoles supérieures des sciences appliquées de Bangor, des écoles nationales supérieures des travaux publics et quelques universitaires en instance d'intégration depuis plusieurs années. Ils ont démontré leur colère contre la suspension de l'intégration à la fonction publique. Cette manifestation intervient deux jours après celle programmée par le collectif des associations et mouvements de jeunes du Tchad, qui a été avorté sous pression de certains membres du gouvernement sur les membres du bureau exécutif du dit collectif. Même le recrutement par voie de contrat annoncé par le gouvernement ne rassure pas le secrétaire général de la dite coalition, Damas Gérard.
Lorsque nous avons rencontré le ministre de la fonction publique en personne, il nous a dit depuis que la loi a été votée depuis le mois de janvier, c'est le 25 janvier qu'ils ont reçu une autorisation pour l'ouverture encore d'une commission et que rien n'est sûr que l'intégration va sortir et qu'une partie serait intégrée en février et l'autre en juin ou autre. Et on a trouvé que ce n'est qu'un leurre, une manière de vraiment berner la jeunesse et de l'enterrer vivant. Et nous sommes restés pacifiquement pour pouvoir rencontrer le ministre et nous dire exactement à quand réellement l'intégration de cette jeunesse-là. À notre grande surprise, la police était venue, se sont mis directement à tirer les lacrymogènes et les balles réelles sur nous.
Bien qu'ils soient accueillis ce jeudi matin par la police avec les gaz lacrymogènes qui ont fait une vingtaine de victimes, dont un dans un état grave, les manifestants durcissent leur position.
Nous demandons aux parents d'élèves, à toutes les institutions, d'observer strictement la période allant du cadre jusqu'à satisfaction totale. On demande à tous les parents de garder leurs enfants à la maison.
Mais celui qui laisse son enfant venir, cela veut dire qu'il n'aime pas son enfant.
À partir de maintenant, comme la police est venue répondre par la violence, notre manifestation va continuer. Que ces éléments recrutés par remplacement numérique là, de venir nous tuer. Nous, on va aller jusqu'au bout.
Selon certaines sources, la police aurait tiré à balles réelles sur les manifestants, faisant 3 blessés dans les rangs des élèves, dont un enseignant qui n'est pas concerné par ce mouvement du mal. Vu la détermination de ces jeunes diplômés sans emploi, la semaine prochaine s'annonce difficile. André Kodumadingar Ndiamena, La Voix de l'Amérique.
Après sa visite mercredi dans une mosquée de Baltimore, dans le Maryland, le président Barack Obama a pris part hier au traditionnel déjeuner de prière organisé chaque année ici à Washington. Les précisions d'Anastasie Tudiech.
Le président américain a saisi l'occasion pour expliquer comment ses convictions religieuses l'ont aidé dans son travail à la Maison-Blanche et comment sa foi l'aide à surmonter les peurs de tous les jours.
It is a primal emotion, fear, one that we all experience.
La peur est une émotion primitive dont nous avons tous l'expérience. Elle peut se propager à travers les sociétés et les nations. Si nous la laissons nous consumer, ses conséquences peuvent être pires que toute menace extérieure.
Can be worse than any outward threat.
Le chef de l'exécutif a parlé ouvertement des sujets qui le tracassent. Par exemple, la sécurité de sa fille Malia lorsqu'elle s'en ira à l'université dans quelques mois, ou encore l'envoi de soldats américains dans des opérations militaires à l'étranger. La peur de l'inconnu peut mener à de mauvaises décisions, a-t-il souligné, en citant le cas de certains hommes politiques américains qui ont appelé à interdire l'entrée du pays aux réfugiés syriens et à d'autres immigrants.
Just yesterday. Some of you may be aware I visited a mosque in Baltimore.
Pas plus tard qu'hier, certains d'entre vous le savent peut-être. Je me suis rendu dans une mosquée de Baltimore pour faire savoir à nos frères et sœurs musulmans américains que eux aussi sont américains et les bienvenus ici.
And welcome here.
Barack Obama avait déclaré aux membres de la société islamique de Baltimore que les Américains forment une même famille au-delà des différences religieuses et autres. Le président Obama a clôturé la rencontre de jeudi par une prière.
Je prie pour que nous honorions notre obligation d'être de bons serviteurs de la création de Dieu, cette belle planète. Je prie pour que nous voyons chaque enfant comme le nôtre, digne de notre amour et de notre compassion. Et je prie pour que nous répondions à l'appel des Écritures à nous lever pour la justice.
And to stand up for justice.
Il faut préciser que c'était la dernière fois que M. Obama participait à la rencontre annuelle de prière en tant que chef de l'exécutif, son mandat à la Maison-Blanche s'achevant en janvier prochain.
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson. Morgane Guiriec à la présentation. Excellente journée. Et puis retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com.